Bonjour à tous et bienvenue dans Arrêt Buffet, l'émission rugby d'Eurosport et de Rugbyrama, à retrouver sur toutes les bonnes plateformes d'écoute et en vidéo tous les jeudis. Une émission dont on ne vous présente plus la tête d'affiche, Imanol Arinordoki. Salut Imanol.
Salut mes seigneurs.
Et les seigneurs en question pour l'accompagner, ce sont deux journalistes du Midi Olympique, Arnaud Bordelais et Pierre-Laurent Gou. Bonjour messieurs.
Salut les gars.
Salut tout le monde.
Quant à moi, Simon Faravac, journaliste pour Eurosport, je vais me charger de la présentation. Une émission un peu spéciale cette semaine parce que plutôt que de vous proposer trois thèmes, on va se consacrer à l'analyse de la composition de l'équipe de France qui affrontera samedi l'Australie au Stade de France pour lancer sa tournée de novembre. L'absence de Paul Williamsé, Romain Tamac et Cyril Bail à court de compétition mais titularisé, un banc avec 6 avant ou 5 avant et demi, on ne sait plus trop. On évoque les principaux choix de Fabien Galthié et de son staff dans cet épisode d'Arrêt Buffet. Arrêt Buffet, c'est parti. La tournée de l'équipe de France débute ce samedi avec une rencontre face à l'Australie et jeudi, Fabien Galthié et son staff ont officialisé la composition du 15 de France, une composition qui n'a pas souffert de grandes surprises à partir du moment où on savait depuis la veille que Paul Williamsé serait absent. En première ligne, donc je vous la rappelle, messieurs Bail, Marchand, Antonio, Woki et Flamand en deuxième ligne, on va en débattre, Gelon, Aldrit, Olivon pour la troisième ligne, une charnière 100% toulousaine avec Dupont et Tamac, Moefana et Penaud, Zell, Danti, Ficou au centre et à l'arrière, Ramos. Messieurs, qu'est-ce qu'elle vous inspire, cette composition ?
Ben on sent tout simplement que vraiment le groupe se resserre en an de la Coupe du Monde. On pouvait se poser la question de savoir, avec les absences dues aux blessures, quel allait être ce groupe. Quel allait être ce groupe aussi avec les retours de joueurs, on va en parler, qui ont très peu de temps de jeu. Mais voilà, on voit qu'il y a quand même vraiment une ossature et des joueurs sur lesquels on s'appuie, qui ont plus ou moins joué. Hein. Je parle par exemple, je pense à Flamand en deuxième ligne. Voilà, il y a des joueurs qu'on retrouve sur une trame et on peut penser que voilà, il y a vraiment une ossature et un groupe qui se dégage et que ça va être de plus en plus compliqué pour des prétendants d'intégrer en tout cas cette feuille de match.
Bah on le voit avec le cas de Cyril Bail. Hein. Cyril Bail, il a joué 36 minutes le week-end dernier à Bayonne. Fabien Galthié l'a immédiatement rappelé. Il est titulaire avec seulement 36 minutes alors qu'il a été opéré début août d'une pubalgie. Pour un pilier, c'est quand même pas anodin, une pubalgie. Hein. C'est juste quand même un endroit un peu sensible, on va dire.
Pour des adducteurs, des adducteurs.
Oui, mais je veux dire que c'est un peu sensible pour un pilier quand on doit pousser en mêlée. Donc, ça peut tirer, ça peut couiner, ça peut… Voilà. Donc, c'est quand même… voilà. Et donc, je rejoins Emmanuel. Effectivement, Fabien Galthié a arrêté son équipe type. Cyril Bail en fait partie. Alors qu'un garçon comme Dany Prizot pensait probablement… Enfin, c'est même sûr, hein, puisque pour l'avoir rencontré samedi, il était quasiment certain de démarrer cette rencontre. Et finalement, c'est Cyril Bail. Donc, pour moi, c'est l'exemple le plus symptomatique avec, évidemment, Romain Tamac, même si je pense que la titularisation de Romain Tamac, et d'abord, c'est moins une surprise, et ensuite, après, peut-être moins à débat dans le sens où c'est un poste d'ouvreur, c'était de la traumato, puisque c'était un problème au niveau de la cheville pour Romain Tamac, que c'est un garçon qui fait pas d'excès, qui est hyper pro dans sa alimentation, dans sa récupération. Donc voilà, pour moi, il n'y a pas de débat sur la titularisation de Romain Tamac, mais probablement que pour Mathieu Jalibert, au fond de lui, il doit y en avoir, enfin, j'imagine.
Que dire de plus, parce que Imanol et Arnaud ont quand même eu pas mal d'arguments pertinents. Voilà, je voulais juste rebondir, Simon, sur le côté sans surprise. C'est parce que les journalistes rugby ont bien fait leur boulot. Parce que s'il y a…
Oui, sans surprise pour vous, messieurs.
S'il y a dix jours, tu demandais, je pense au public et même à nous, si Bail est titulaire, même Moefana titulaire à l'aile.
Même à lui, hein.
Et même Ali, ou Flamand en deuxième ligne, comme parlait Imanol, même si c'est joueur de la qualité, il y a quand même… Voilà, Imanol et Arnaud, je ne vais pas répéter ce qu'ils ont dit. Il y a une épine dorsale, un 15 titulaire. Fabien Galthié, je l'ai déjà dit plusieurs fois, est un conservatisme impressionnant dans ses compositions d'équipe. Voilà.
Imanol, toi qui peux avoir cette expérience, oui. Est-ce que c'est compliqué de reprendre parce que Ntamak, la blessure était moins grave, mais il n'a pas joué en compétition officielle depuis un mois et demi. Les oppositions face à des U20, ça a beau être à balles plus ou moins réelles, Est-ce que ça peut compenser cette absence de compétition ou selon toi, c'est difficile quand même de se remettre dans le rythme après un mois et demi?
Ben, après, pour moi, il y a une logique. Enfin, en tout cas, en tant que joueur, je pense que soit en parlant notamment du cas de Romain, on l'avait évoqué un peu la semaine dernière, de Romain Tamac, et là, en l'occurrence, le cas de Cyril Bailly, soit ils sont un peu à court de compétition et donc tu les réintègres dans le groupe, mais ils ne sont pas sur la feuille de match et tu leur donnes encore une semaine, 10 jours, 15 jours d'entraînement pour jouer le match suivant. Soit ben, tu les mets titulaires. Ce n'est pas des joueurs que tu peux mettre en place parce qu'ils reviennent, manque de rythme, reviennent un peu de blessure. Si tu les mets sur le banc et que ça ne tient pas, ben, tu te passes d'un remplaçant. Donc, c'est des joueurs qu'il faut faire attaquer à la rencontre. S'ils sont en cours de rythme, eh bien, ils sortiront un peu plus tôt. S'il y a un petit souci, ben, on peut les remplacer. Donc, il y a une certaine logique, même si peut-être le retour de Cyril Bailly est quand même assez précoce. Ça montre quand même la confiance que le staff et l'équipe a en ce joueur. Voilà, il sera aussi associé à Julien Marchand, qui connaît bien. Et je pense qu'il y a une vraie quand même confiance accordée à Cyril Bailly, notamment peut-être sur la mêlée fermée, parce qu'il est quand même l'un des meilleurs piliers du gauche au monde.
Non, c'est le meilleur actuellement. C'est le meilleur.
Et j'allais dire, et pour moi, le meilleur.
Pardon. Pardon, monseigneur.
Et on sait que ça va être important contre l'Australie. Donc voilà, après, je sais qu'il y a aussi la composition aussi derrière, en deuxième, etc., qui découle un peu peut-être de ces choix-là, et notamment du banc, on y reviendra. Mais voilà, pour moi, il y a une logique, voilà, pour ces deux joueurs, de les faire attaquer directement comme ça. On leur fait confiance, et s'il manque un peu de rythme, eh bien, ils sortiront plus tôt. Mais voilà, c'était soit on les faisait commencer, on les faisait attaquer d'entrée, soit ils n'étaient pas dans le groupe. Et voilà, ça montre encore une fois la confiance qu'on leur accorde et la volonté de Fabien Galthié de s'appuyer sur ces joueurs-là.
Je voudrais compléter un peu ce que dit Manuel, parce que je trouve que le message envoyé en titularisation Cyril Bailly et Romain Tamac n'est pas le même sur les deux joueurs. Romain Tamac, qui était de la première liste des 42, ça fait 3 semaines qu'il sait qu'il va jouer l'Australie, il ne s'en cachait pas, Fabien Galthié lui avait mis entre guillemets le défi dans les mains. C'est quelqu'un qui est très précautionneux et exigeant sur sa préparation individuelle. C'est une entorse de la cheville, c'est pas musculaire, donc il peut jouer aussi strappé, même à 80%. Donc il n'y a pas de risque ni sportif ni musculaire. En plus, il joue un poste où c'est un peu le maître à jouer et où la dimension physique est peut-être moins importante que pied gauche. Moi, je trouve que le message, il pose question le message de Cyril Bailly. J'entends ce que dit Manol sur la confiance accordée au pied gauche, sur le constat que fait Arnaud, sur le fait que Cyril Bailly est probablement le meilleur, et d'ailleurs Manol dit la même chose, est le meilleur pied gauche en forme du monde. Mais il n'était pas de la liste des 42. Il n'a pas participé au premier stage. Fabien Galthié nous dit souvent qu'il manque de temps pour travailler. Là, on a l'impression qu'à ce poste-là, la première semaine n'a pas compté. Je ne dis pas ça pour chercher des petites bêtes, mais je trouve quand même que le message délivré aux autres prétendants au poste de pied gauche n'est pas le même qu'à l'ouverture.
Je suis d'accord, mais le message, il est clair au moins. Mais le message, Dany Prizot, il sait que quoi qu'il fasse, de toute façon, aujourd'hui, dans l'esprit de Fabien Galthié, le numéro 1, c'est Cyril Bailly, point barre. Mais Cyril Bailly, en plus, c'est un enfant de William Servat. On ne va pas se mentir, Julien Marchand, Cyril Bailly, c'est lui qui les a fait éclore, il les a façonnés, il a travaillé avec eux longtemps avec le Stade Toulousain, il les connaît par cœur, il a une confiance aveugle en eux, une confiance qui lui rend bien hein, d'ailleurs. Donc, moi, ça se justifie par rapport au message. Ouais, je comprends ta position, Pierre-Laurent, mais en fait, pendant des années, on a constamment réclamé, nous les journalistes, de la stabilité. On en avait marre, on disait 58e charnière, de l'air Laporte.
Surtout, voilà, surtout 9-10. Ouais.
Voilà, de la charnière, mais même on disait ouais, ça tourne tout le temps, c'est fatigant. Ben, faut reconnaître à Galthié, je ne suis pas toujours d'accord avec lui, mais bon, ben voilà, là, il a instauré une stabilité. Le message, il est clair. Dany Prizot, ben, il jouera des bouts de match tant que Cyril Bailly sera à ce niveau-là. Alors, on ne sait pas quel niveau sera celui de Cyril Bailly samedi contre l'Australie. Probablement qu'il sortira peut-être de façon un peu prématurée par rapport à ce qu'il a l'habitude de faire. Enfin, j'espère en tout cas, et ce sera synonyme d'intelligence quelque part, parce que ce coaching, je pense qu'ils vont l'anticiper. Mais j'ai aucun doute, et je rejoins Emmanuel. Et d'autant plus que il a besoin de rythme. Jouer l'Australie, c'est la meilleure façon de préparer le gros défi qui arrive derrière avec l'Afrique du Sud.
On en vient à la question de la deuxième ligne. Ça, c'est le choix le plus récent, forcément, étant donné que Le forfait de Willem C a été annoncé la veille de l'annonce de cette composition. Et c'est donc Flamand qui accompagne Woki dans la cage. Messieurs, qu'est-ce qu'on en pense? Quel est le message, cette fois-ci, derrière cette titularisation de Flamand?
C'est déjà un joueur qui prend de l'épaisseur, parce que pour le titulariser seconde ligne à droite, en sachant que le seconde ligne droit, c'est quand même la poutre du pack, c'est celui qui cale la mêlée. Et c'est un poste qui était quand même détenu par Paul Willemc. Et donc voilà, pour le suppléer, quand même, c'est une belle preuve de confiance. Après, moi, c'est un joueur que j'aime beaucoup, qui est constamment en train de progresser, qui a un très beau gabarit, qui a des très bonnes mains, qui se déplace, qui est très performant en touche. Voilà, c'est vraiment un second ligne très complet, moderne pour moi, qui a encore une grosse marge de progression. Et je pense que c'est naturel aujourd'hui de le voir. Moi, j'attendais de le voir comme son titulaire en équipe de France. Et pour moi, c'est peut-être un joueur qui a vraiment une carte à jouer, même sans parler de l'absence de Paul Williams. Je pense qu'il a une place à aller chercher dans ce 15 de départ en vue de la Coupe du Monde.
Moi, je pense qu'il y a une autre explication. Hein. Thibaut Flamand, alors d'abord, juste pour rappeler quand même, au Japon, il a joué les deux tests contre les Japonais, deuxième ligne droite.
Il a été très, très, très bon.
Il a été excellent. Fabien Galthié a dit ce midi lors de l'annonce de l'équipe qu'il avait été le joueur de la tournée. Il a joué deux fois 80 minutes. Je ne sais pas si vous vous souvenez des températures. On annonçait 40 degrés au Japon à ce moment-là, avec un taux d'humidité juste insupportable. Moi, ce que je vois surtout, c'est que Thibaut Flamand, il va démarrer le match avec un pilier droit qui s'appelle Winnie Antonio, qui est un cube, qui en mêlée aujourd'hui donne quand même un certain nombre de garanties. En revanche, le pilier droit remplaçant, si je ne me trompe pas, c'est Sipili Falatea, qui a beaucoup moins d'expérience. Et en mettant Falatea, il fallait un deuxième ligne à droite avec des larges épaules, qui soient solides, qui soient un tank. Et c'est le rôle, et c'est le cas de Romain Taoufifénois, qui depuis maintenant plusieurs mois ne déçoit jamais lorsqu'il fait ses entrées avec l'équipe de France. Donc je crois que c'est surtout des duos qu'ils ont composés. Voilà, d'un côté Winnie Antonio Flamand qui vont débuter le match, et les fameux finisseurs, pour faire plaisir à Fabien Galthié, les fameux finisseurs qui seront donc Falatea et Taoufifénois. Donc moi, pour moi, c'est l'explication, elle tient plutôt là. C'est ce que Fabien Galthié a expliqué, et là je suis vraiment entièrement d'accord avec ce qu'il a souligné.
Pour essayer de compléter leurs propos, moi aussi j'attends avec excitation cette paire Woki Thibaut Flamand. C'est un peu la mode ou une évolution, j'ai envie de dire, du rugby moderne où ces troisième lignes un peu polyvalents montent dans la cage. Il y a aussi Yacouba Camara à Montpellier qui depuis cette saison monte pas mal au poste de numéro 4. Mais par contre, c'est une vraie bonne nouvelle, et là je rejoins Imanol, pour le rugby, parce que Thibaut Flamand, c'est d'abord un vrai joueur de rugby, c'est pas simplement un athlète. Souvent, deuxième ligne, on nous a mis par le passé, je vais pas les citer, mais…
Si, des noms.
Non, mais par exemple, quelqu'un comme Bernard Leroux est un décathlonien, c'est génial. Mais voilà, Imanol parlait en parlant de Thibaut de Flamand, qu'il était très bon avec ses mains. Et c'est bien, c'est des vrais joueurs de rugby qui savent tout faire, qui savent jouer au rugby, qui savent jouer à la balle, qui savent jouer un 2 contre 1, qui savent aller gratter aussi. Et c'est d'abord une très bonne nouvelle pour l'équipe de France et pour le jeu prôné par Fabien Galthié.
Les angles de course, notamment de Flamand, des fois sont sur des courses rentrantes ou pour des courses de soutien, sont remarquables. La troisième ligne, à moins que vous ayez un mot à dire là-dessus, messieurs, je pense.
Moi, je trouve que c'est Flamand qui a un peu il y a un peu d'Imanol d'ailleurs dans ses qualités. Imanol, dis-moi si je me trompe, je trouve que c'est un joueur qui te ressemble un peu, et pourtant il joue pas numéro 8.
Non, mais c'est comme disait Pierre Laurent, c'est l'évolution du rugby moderne, hein, depuis 2 ans, je dirais. 2-3 ans, c'est d'abord à l'hémisphère sud qui a commencé, peut-être même d'ailleurs les Sud-Africains, contrairement à ce qu'on aurait pu penser, à faire monter des secondes lignes comme ça, avec une capacité de déplacement bien plus importante. Et voilà, parce qu'aujourd'hui, c'est vrai qu'on pratique un rugby de mouvement où on a besoin d'avoir des joueurs qui se déplacent. Et ce n'est pas étonnant de pratiquement aujourd'hui jouer avec 5 troisième ligne, sachant que bon, ils ont quand même des gabarits qui sont un peu plus impressionnants que le mien. Merci Arnaud, mais c'est un peu plus épais que moi et c'est un peu plus grand. Donc, mais c'est vrai que c'est un joueur qui me plaît, oui, parce que voilà, c'est un joueur qui joue aussi au ballon.
Tu l'as vu arriver au Stade Toulousain, non?
Ouais, moi je le suis depuis un petit moment et je l'ai vu progresser. Et c'est vrai que moi je pense que. En plus, je pense vraiment qu'il a vraiment encore une grosse marge de progression. C'est un jeune joueur. Il peut vraiment apporter une autre dimension, je pense, à cette équipe. Et après, pardon, pour la troisième ligne, là aussi, il y a du lourd. Hein. Enfin, c'est solide. Il va falloir qu'ils s'accrochent, là, les Australiens, parce que quant à Jelonge, Aldrit et Olivon, bon, ça, dans le couloir, là, quand tu es dans le couloir pour rentrer dans le stade, il y a un peu de matos quand même. Donc, ça fait plaisir. Puis voilà, le retour de Charles Olivon. Hein. On a eu un débat sur le capitana. Je pense qu'il voilà, y en a à peu près 6 qui ont été identifiés. Je pense qu'il y en a d'autres qui vont aussi se révéler. Et je pense que Charles Olivon va être un bon relais ou un bon complément aussi d'Antoine Dupont. Voilà, parce qu'il va y avoir du combat pendant cette tournée. Et on attend de voir un peu à quel niveau il va revenir sur cette tournée d'automne.
Bah, tu sauras que Patrice Collazo est d'accord avec toi, Emmanuel, parce que dans une interview à paraître demain, une excellente interview dans les colonnes de Middle, Patrice Collazo, le titre de l'interview, c'est « Nos adversaires ne doivent pas bien dormir la veille des matchs ». Parce que, voilà. Parce que justement, on a un gros, gros, gros quand même paquet d'avant.
Dans le genre solide aussi, mais derrière, il y a Jonathan Danty. Et là, il y a une question qui reste un peu en suspens, même si cette composition de l'équipe de France a été officialisée. Ça peut dépendre d'un carnet rose, d'une naissance, messieurs. Qu'est-ce qui peut se passer? Quelle réorganisation ça pourrait entraîner? Arnaud, est-ce que tu peux nous en dire plus à ce sujet, avec notamment peut-être Moefana qui glisserait au centre?
Ouais, alors bon, à cette heure, on ne sait pas réellement ce que Fabien Galthié et Jonathan Danty se sont dit. Est-ce qu'ils ont fait un pacte? Est-ce qu'ils ont. Voilà, donc la compagne de Jonathan Danty doit accoucher dans les heures, les jours à venir. Fabien Galthié, quand on lui a posé la question, a d'abord rappelé son expérience d'un France-Australie, justement, à Marseille, où il avait joué le match et le lendemain matin, il avait été assisté à la naissance de son fils. Et puis, il est parti un peu dans un petit délire très sympa, d'ailleurs. J'avoue qu'on a bien rigolé, où il disait que tout avait été planifié avec la maternité de La Rochelle, que Thibaut Giroud avait fait une projection, que voilà.
Avec la data,
exactement, avec les data scientists. Donc, tout est prévu pour que Jonathan Danty prenne une voiture le plus vite possible après le coup de sifflet final et se rende à La Rochelle pour être au soutien de sa compagne. Maintenant, plus sérieusement, il a aussi dit que ça relevait du choix de Jonathan Danty. En gros, c'est Jonathan Danty qui prendra la responsabilité si son épouse doit accoucher dans les heures à venir. Est-ce que je pars? Il lui met un peu la pression quelque part, effectivement. Il lui met un peu la pression. Est-ce que je reste avec l'équipe de France? Est-ce que je pars rejoindre? Voilà. Franchement, j'ai envie que l'histoire soit belle. Et effectivement, l'histoire de Fabien Galthié pour la naissance de son fils, mais il faut la souhaiter à Jonathan Danty pour qu'il n'ait pas à choisir, qu'il puisse jouer, qu'il puisse bien jouer, qu'il puisse gagner et qu'il puisse jouer sur les deux tableaux après avec sa compagne.
Et en termes de conséquences sportives, donc, ça pourrait entraîner l'entrée dans le groupe des 23 d'un joueur qui n'y figure pas parce qu'il n'y a pas de délié de métier sur le banc.
Oui, mais d'abord, Simon, ça a déjà eu des conséquences sportives dans cet avant-match. Je me fais un peu l'avocat du diable, mais ça fait partie de ces petits grains de sable, qui ont émaillé la semaine des Bleus. Parce que je suppose que Jonathan Danty n'a pas préparé ce match dans les meilleures conditions, parce que quand il sortait du terrain, je pense, et c'est naturel et c'est humain, il allait sur son téléphone prendre des nouvelles de son épouse ou de sa compagne, parce que je ne sais pas s'il est marié. Et que a priori, le terme, je parle sous le contrôle d'Arnaud qui pour le coup, a suivi le dossier presque minute par minute, le terme est passé et on sait que des fois, la médecine choisit de déclencher des accouchements, passer un certain laps de temps et fait fi du sportif.
Et demande à Emmanuel, tu as connu ça toi? Est-ce que tu as eu à choisir entre l'accouchement de ton épouse et un match?
Heureusement, non. Mais
Comment tu vivrais ça?
Ben déjà, honnêtement, je ne sais pas ce qui s'est dit entre Fabien Galthié et Jonathan, moi je trouve que c'est pas bien de mettre les joueurs en porte-à-faux parce que pour moi il a pas à choisir. Après, s'il a envie de choisir, il a le droit. Ça fait toujours une belle histoire à raconter, mais je pense que c'est important d'être auprès de ton épouse quand elle va accoucher, de vivre ce moment-là, parce que des matchs de rugby, il en jouera d'autres. Maintenant, s'il met la pression en lui disant tu choisis entre l'équipe de France et la naissance de ta fille, je crois que c'est une fille, je trouve ça pas bien. Donc bon, je pense pas que ça soit passé comme ça. On extrapole peut-être un petit peu, mais lui, il doit pas être forcément dans les meilleures conditions. Je pense que si le terme effectivement est proche, pense que ça le rassurerait certainement de savoir qu'il puisse prendre une voiture directement et rejoindre La Rochelle, même si c'est juste avant le match, quoi. Et prévoir justement son remplacement, quoi.
Toi, tu t'étais débrouillé pour qu'il naisse en juillet, non, tes enfants, Emmanuel ? T'as tout calculé ?
Ouais.
Et donc, si Danti déclare forfait pour cette belle nouvelle, messieurs, Mathis Lebel pour intégrer le 15 de départ ?
On pense qu'effectivement, il y aura Moefana, pardon, qui a jamais déçu avec l'équipe de France, hein, positionné au centre ou à l'aile. Pour l'instant, le Bordelais a toujours rendu des copies très propres. Donc, on pense évidemment que Moefana glisserait à l'aile et que Mathis Lebel, qui a souvent tourné durant les séances à haute intensité avec l'équipe titulaire, pourrait éventuellement, évidemment, intégrer ce 15 de départ avec le poste d'ailier. Maintenant, là, pour l'instant, on est vraiment sur de la pure spéculation. À ce jour, à 7 heures, je ne sais pas quand est-ce que…
On enregistre jeudi,
voilà,
soir.
Voilà, jeudi soir. J'ai dit début de soirée. Pour l'instant, Jonathan Danti est toujours en train de préparer ce premier test face à l'Australie. Donc, pour l'instant, la question ne se pose pas. Évidemment qu'on suit avec attention et qu'on souhaite, et c'est la chose la plus importante, que cet heureux événement se passe dans les meilleures conditions pour Jonathan.
On en vient au banc, donc un banc en 6-2, ou on pourrait même dire en 5,5-2,5 avec le Makalou qui est central là-dedans. Qu'est-ce que vous en pensez, messieurs ?
C'est pas un 6-2 et c'est pas un 5-3, c'est un 5, c'est un nouveau, c'est un 5 plus 2 plus 1. Sachant qu'on a un joueur qui est capable de jouer devant et derrière.
Mais ça, Emmanuel, c'est quand même assez exceptionnel parce qu'au-delà
des
qualités physiques, il y a aussi les combinaisons.
Déjà dans le championnat, mais au niveau international, ça l'est encore plus.
Bah, surtout qu'il y a les combinaisons à connaître des avants et des arrières du Stade français, des avants et des arrières du 15 de France. Ça doit un peu turbiner dans le cerveau de Sékou Makalou à la fin des séances d'entraînement, non ?
Ah ben c'est sûr que c'est pas cadeau, surtout si on te dit il faut rentrer à l'aile, quoi, et que c'est au bout de 5 minutes, parce que ça peut arriver. Voilà, si Gaël Ficou ou Jonathan Danti se blessent, ce que je ne leur souhaite absolument pas, bien entendu, c'est Moefana qui va glisser au centre. Et est-ce que, donc, du coup, on va faire rentrer Makalou à l'aile, sachant qu'il a déjà évolué à ce poste au Stade français, ou est-ce que c'est Jalibert qui va passer à l'aile, parce que c'est quand même un joueur aussi qui est très rapide. Je ne sais pas, qu'est-ce qui a été prévu. Certainement avez-vous des infos par rapport à ce qui s'est passé cette semaine à l'entraînement, mais ils ont dû prévoir ça, ouais, un plan de bataille, ouais, mais c'est vrai que c'est assez particulier.
Jalibert couvre le poste d'arrière, hein, uniquement pour l'instant, et le poste d'ouvreur.
On peut se poser la question.
La question est légitime et effectivement, je m'étais pas interrogé personnellement sur une éventuelle défaillance rapide d'un des deux centres. Après, on sait que s'il y a un des ailiers qui casse rapidement, Gaël Ficou peut jouer à l'aile, Thomas Ramos peut monter au centre et faire entrer Jalibert à l'arrière. On peut penser à ça. Gaël Ficou a aussi souvent, oui, il a joué. Je crois qu'il a quelques sélections à l'aile à l'époque de Ginoves. Voilà.
Même de Fabien Galthié au départ.
Même de Fabien Galthié,
exactement.
Ouais, donc, il a toujours été très bon à l'aile d'ailleurs.
Ouais. Alors, il est rarement décevant, Gaël Ficou, quand même. Hein. C'est un joueur qui a rarement dessus de la moyenne, quand même. C'est quelqu'un, quand même, qui est plutôt. Mais oui, enfin, pour répondre à la question, ouais, j'envisage plutôt ça comme ça. Plutôt Gaël Ficou en cas de défaillance d'un ailier. Maintenant, si c'est une défaillance d'un centre. Là, je n'ai pas la réponse comme ça. Pierre-Laurent, peut-être ?
Non, moi, ce que j'espère surtout, c'est que Makalou soit enfin bon en équipe de France et qu'il fasse une prestation comme il est capable de le faire avec le Stade français, parce que c'est un joueur au formidable potentiel. Arnaud sait toute l'estime que j'ai pour lui, mais il déçoit aussi très souvent, et notamment en équipe de France, qu'il soit utilisé un tout petit peu à l'aile ou plus souvent en troisième ligne. C'est un profil atypique, il a des qualités incroyables de vitesse, il va plus vite que les ailiers. L'interrogation d'Imanol est pertinente. Je pense qu'ils se sont la posée et qu'ils ont dû, notamment sur ce match, on voit mal trop de bricolage. Je pense que si un ailier se blesse, Makalou rentrera vraiment à l'aile.
Non, mais
t'as raison de parler de 5 plus 2 plus 1, parce qu'il est vraiment.
Imanol, ça doit être horrible pour Makalou quand même, parce qu'il faut quand même se mettre à sa place. Il doit avoir une quinzaine de combinaisons en touche à retenir. Ses courses de soutien, selon s'il joue troisième ligne ou ailier, les combinaisons de trois quarts. Mais ça doit être une usine à gaz dans sa tête. C'est,
Écoute,
effectivement, c'est pas simple.
C'est lui le premier fautif. S'il courait moins vite, déjà, ça lui arriverait pas. Moi, on ne m'a jamais proposé de passer à l'aile.
Je serais curieux de savoir qui est le plus rapide, d'ailleurs, entre Boefana, Makalou et Damien Penaud. Tiens. Ce serait,
Ouais. Je sais que Makalou, là, ça…
Makalou, il va 10 000 quand même.
On
essaiera d'avoir les stats.
Je me souviens à l'époque où Laurent Sampere était encore joueur au Stade Français, où une fois Sekou Makalou sur une montée après touche avait été sanctionné par l'arbitre et Sampere était capitaine, il avait été voir l'arbitre et il demande l'explication, l'arbitre lui dit bah il est hors jeu, il est parti avant et Sampere qui répond à l'arbitre en fait je crois juste que Sekou Makalou va plus vite que votre regard, monsieur l'arbitre. Ça m'avait fait assez sourire.
On termine, messieurs, cette émission par un mot de la Coupe du Monde féminine, parce qu'on en a parlé durant les précédentes émissions, ça a été un fil rouge. Là, l'équipe de France se retrouve dans le dernier carré, donc on va quand même évoquer ces deux rencontres. Canada-Angleterre à 4h30, heure française, puis Nouvelle-Zélande-France, 7h30 chez nous. Messieurs, les Black Ferns, c'est trop costaud ou ça peut passer pour les Bleus, à votre avis?
Elles les ont déjà battues, hein, donc rien n'est impossible. Il faut arrêter, comme chez les garçons,
pas de complexe,
de se faire un monde de ce maillot noir. Quoi. Donc non, franchement, qu'est-ce qu'elles ont à perdre? Elles jouent à l'Eden Park contre la Nouvelle-Zélande. Emmanuel l'a vécu avec les garçons. Il y a rien à perdre.
Il y a rien à perdre.
Ouais, voilà. Donc franchement, autant que, moi j'y crois. Elles se sont construites un peu dans la difficulté. On sait qu'il y a eu quelques problèmes en interne. Elles n'ont pas fait des matchs forcément toujours très aboutis. Ça rappelle un peu le parcours de 2011 en Nouvelle-Zélande des garçons. C'est un peu… On ne sait pas trop quoi en penser hein, quand on regarde leurs performances. Les difficultés en interne, ça rappelle aussi 2011. Ouais, il faut y croire. Quoi. Moi, je rêve d'une finale France-Angleterre quand même. Franchement, ce serait chouette. Finale France-Angleterre pour finir, ça aurait de la gueule.
Attention à ne pas sous-estimer les Black Ferns. Certes, Arnaud a raison de rappeler, on reste sur deux victoires face aux Néo-Zélandaises à l'automne 2021, qui avaient en plus perdu par deux fois face à l'Angleterre. Mais suite à ce cataclysme, entre guillemets, au pays du rugby, il y a une vraie révolution chez les filles en Nouvelle-Zélande. La fédération néo-zélandaise a nommé Wayne Smith, qui était l'adjoint du sélectionneur des Blacks pour le titre de 2015 et de 2011, qui était en retraite. Et Wayne Smith, il a accepté la mission en demandant deux choses, parce qu'il nous le révèle dans notre confrère Simon Valzer dans l'édition de demain. Il voulait avoir carte blanche sur le choix des filles et aussi produire un rugby ambitieux et risqué. On lui a laissé carte blanche. Donc, il a rajeuni énormément son équipe, tant et si bien que les Françaises, elles ne connaissent pas très bien les adversaires qu'elles vont jouer. Après, sur la compétition, on ne peut pas dire que les Blacks Ferns a été impressionnante, que ce soit dans les deux matchs qui comptent, hein, le match d'ouverture face à l'Australie ou leur quart de finale face aux Galloises, parce que les Galloises sont une toute petite équipe chez les filles, bien moins bonne que l'Italie. À l'inverse, la France reste sur un match probant face à l'Italie, même si on peut trouver maille à redire. Mais attention quand même, elles joueront à domicile, à l'Eden Park d'Auckland, on annonce du monde, c'est du 50-50.
Mais on attendait de voir la réaction, surtout des filles sur le quart de finale, parce qu'on sait que c'est un groupe qui joue énormément à l'affect. Donc, moi, j'attendais un peu de voir leur comportement par rapport à la blessure de leur sensus. Et finalement, on a l'impression qu'elles sont plutôt libérées. Donc, comme disait Arnaud, bien, peut-être qu'on n'est pas à l'abri d'une très bonne surprise et qu'elles vont justement moins se poser de questions. Moi, j'ai l'impression qu'elles sont en train de monter en pression. Et voilà, il va falloir certainement aussi, ça a été fait, je crois, dans la composition d'équipe, densifier un peu le pack parce que face aux Blacks, ça va être un autre niveau. Mais pour moi, c'est pas impossible, ça va être très dur. Parce que voilà, les filles aussi, les Black Ferns vont jouer à domicile. Mais ça peut être aussi, pour avoir connu, avoir joué les Blacks à l'Eden Park, ça peut être aussi une pression contre elles. Si le match est serré, la pression va s'inverser et ça peut être très bon pour les Françaises. Donc voilà, on leur souhaite de passer encore une étape et d'aller s'offrir une belle finale.
En tout cas, on sera tous devant TF1 samedi matin, Emmanuel.
Et yes. Ça serait un vrai exploit. Hein. Ça serait un vrai, vrai exploit. Hein.
Oui, puis 7h30 par rapport à l'autre demi, 4h30, on est plutôt pas mal loti.
On s'en sort pas mal.
Voilà, pour et prendre le petit-déj devant le match.
C'est 7h30, heure d'hiver, donc c'est presque une grasse mat.
Ça sera facile.
Ouais, parce que tu dis ça parce que tu as un lève-tôt.
Facile de mettre le réveil. Parfait, messieurs. Merci pour ces débats autour de l'équipe de France, des équipes de France même. Et on se retrouve jeudi prochain, cette fois-ci pour débriefer non plus les compositions, mais bien des matchs. Salut.
Salut.
À bientôt. Salut tout le monde.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.